Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, avant que ces plages d'Arte Radio prennent place sur le 93.9, la séance d'écoute vient de se terminer. Je suis accompagné de Vincent Pourageau. Bonjour Vincent.
Bonjour Gilles.
Et nous recevons Sylvain Gire, donc fondateur, on peut le dire comme ça, de arteradio.com.
Bonjour.
Alors, on est ravis de vous recevoir dans nos studios tout récemment rénovés en termes de matériel. On revient un petit peu sur cet espace de création en ligne, la radio web d'Arte, arteradio.com, qui depuis, 2002, c'est ça,
oui.
A compté plus de 1500 créations originales, documentaires, bricolages, feuilletons, qui a repensé un petit peu le mode radio, le médium radio, et qui, ça s'inscrivait, juste avant le web 2.0, on va dire ça comme ça, ou
ouais.
le podcastage des fichiers, etc. Et puis on y reviendra, le choix d'une licence de diffusion Creative Commons. Vous rappeliez un petit peu au début de cette séance d'écoute, comment s'était créée cette radio, et pour laquelle vous avez eu finalement une carte blanche. Rien que ça, déjà, c'est un mot qui est super rare maintenant dans les médias, d'avoir carte blanche.
C'est une chance extraordinaire. Je pense que ça pouvait se passer qu'au sein d'Arte. Bon, alors après, il faut relativiser. Arte Radio, il y a 3 salariés et 200 000 euros de budget annuel. Donc, avec 200 000 euros, on ne fait pas une heure de télévision neuve. Mais quand même, une liberté totale et des moyens, parce que 3 salaires, un vrai studio équipé, du matériel Nagra de qualité. Et donc, 200 000 euros de budget sur lesquels 75% vont... pour la rémunération des auteurs. C'est vrai qu'à mon avis, il y avait qu'Arte pour faire ça. C'était une volonté du président de l'époque, Jérôme Clément. Moi, je me méfiais un peu quand même. J'avais l'impression qu'il envisageait ça comme un espace de talk, en fait, une radio pour les intellos, pour faire des débats, etc. Et donc, j'ai demandé carte blanche. Comme ils étaient quand même assez contents d'avoir pu créer cette équipe, donc il y avait un jeune ingénieur du son, Christophe Rowe, et puis moi, qui était journaliste et auteur à l'époque, ils m'ont donné carte blanche sans trop savoir, et puis ils s'en sont bien trouvés, parce que je pense qu'on a créé quelque chose de plus impactant que si on avait invité Bernard-Henri Lévy à s'exprimer chaque semaine.
Et quel constat vous faisiez justement à cette époque en 2002, parce qu'il y avait déjà un paysage radiophonique. Alors on le sait, il y a très peu de reportages ou même de documentaires sonores qui sont diffusés à la radio. C'est le cas sur Radio France, c'est le cas dans les radios associatives encore. Mais voilà, quel constat vous faisiez en 2002 pour construire Arte Radio ?
Il y avait eu un consultant qu'Arte avait embauché, qui s'appelle Alain Johannes, quelqu'un d'un grand talent, qui avait participé à la création de France Info. Donc c'est lui qui avait établi la viabilité de faire une web radio. À l'époque, il faut se rappeler qu'Internet, en 2002, c'est pas du tout diffusé comme maintenant. Par exemple, les gens écoutent les web radios au bureau. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé le slogan « Écoute Arte Radio, c'est ton patron qui paye ». Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, effectivement, j'ai rencontré Christophe Rowe, on ne se connaissait pas, c'est Alain Johannes qui nous a mariés, il nous a recrutés l'un et l'autre. Il avait 22 ans, moi 38, et il m'a dit « Moi, j'aime le son ». J'adore le son, j'ai une formation d'ingé son, je trouve qu'on ne respecte pas assez le son, qu'il faut refaire du beau son, et sur Internet, c'est possible, parce que c'est beaucoup moins cher que l'image. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu, fin des années 90, une web télé qui a englouti des millions et qui n'a jamais fonctionné, qui a mis la clé sous la porte. Donc finalement, les gens dépensaient des millions pour avoir de mauvaises vidéos en ligne, alors que chacun sait que même une vidéo, même un film, même une télévision, c'est énormément fondé sur le son. C'est l'intelligibilité du son qui fait comprendre une image. Donc nous, on s'est dit, nous, on va faire que du son. C'est beaucoup plus léger. Par contre, on va y passer du temps. On va être des artisans. Mais on n'avait pas du tout l'ambition au début. Même on n'osait pas appeler ça documentaire ou fiction, comme vous dites. Nous, on était vraiment les petits. Et on a commencé par des formats très courts, de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais par contre, des formats travaillés. Voilà, c'était juste ça, le constat qu'on faisait. On s'est dit, on va faire des petits objets sonores, en fait, des courts-métrages sonores, que les gens pourront écouter et réécouter plusieurs fois.
Et pour le coup, alors ça veut dire aussi qu'il y a une archive, que les sons que voilà. vous avez mis en ligne en 2002 sont encore...
Ils sont toujours écoutables.
Il y a une histoire.
Absolument. Et ce qui est drôle, c'est qu'on peut écouter l'histoire si on est suffisamment pervers. En plus, le site est ce qu'il est. Mais bon, il y a un classement. Il suffit de cliquer sur le classement par date. Et au lieu d'être antéchronologique, c'est-à-dire que les plus récents sont en haut, si vous cliquez sur la date, en fait, les plus anciens se mettent en haut. Et vous pouvez écouter la différence, pour reprendre un slogan connu. Et en 2002-2003, effectivement, ça n'a plus grand-chose à voir. Mais en fait, les principes, les fondamentaux sont restés. C'est-à-dire, pas de voix de journaliste, pas de questions, pas d'archives, pas de disques, uniquement de la création. La création originale qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui a été faite pour nous et avec nous.
Alors, je peux pas m'empêcher de faire un petit parallèle, puisque bon, Divergence FM a été créée en 1987 par des gens qui étaient déjà dans des projets de radio, que ça eût été Air Libre ou d'autres radios qu'il y avait ici à Montpellier, et qui étaient un petit peu, on va dire, dégoûtés de. D'une part du vide sidérant qu'il y avait dans les radios qui allaient devenir des radios commerciales ou qui l'étaient déjà devenues, et puis au niveau des radios dites associatives ou dites pirates, etc., parfois aussi le vide sidérant qu'il pouvait y avoir quand bien même les gens étaient en direct toute la journée, parce que voilà, les critiques qu'eux pouvaient faire face à ce type de médias, c'était de pas être pro, d'avoir un son de merde, d'avoir des questionnements parfois qui relevaient de la cour de l'école plus que d'un vrai travail de curiosité et d'intelligence. Et donc ils avaient fondé Divergence FM en se disant on ne fera pas d'émission directe, on produira tout, on post-produira tout. Tout sera, bon, sur bande à l'époque, mais tout sera léché, nettoyé, d'accord, monté, etc. Et de 87 à 95, c'est resté comme ça. Et puis après, il y a eu une autre période dans l'histoire des radios associatives où il y a eu un peu plus d'emplois avec les aides de l'État, etc. Et puis ils se sont mis aussi à faire quand même un travail de rédaction, d'agenda, d'invité, etc. Mais c'est vrai que c'était déjà, donc en 87, il y avait déjà des gens qui avaient envie finalement de retourner dans le laboratoire, dans le studio, et de retravailler la matière sonore en y mettant un quart d'heure pour une minute ou une heure pour une minute.
Notre record, c'est 10 jours pour 10 minutes. D'un son qui s'appelle Autoradio, d'ailleurs, qui circule beaucoup sur les radios associatives. C'est le premier morceau de musique entièrement joué par une Opel Astra. C'est un son de Jérémy Noreni Banafunzi qui doit dater de 2003 ou 2004. Je l'ai payé, je me rappelle, c'est suffisamment douloureux. 10 jours pour 10 minutes. Mais je partage ce que vous dites. On n'a pas inventé grand-chose. On était les héritiers de ce qui s'était fait sur France Culture, sur Radio 7 aussi, qui, moi, quand je débarquais à Paris dans les années 80, était une grande influence. Il y a eu des bricolages sur Nova. Il y a quelqu'un comme Caroline Cartier qui fait du bricolage sonore sur Inter depuis des années. On ne pense jamais à elle quand on parle de création radio. Mais finalement, au niveau du grand public, quand vous parlez aux gens de création radio, de montage, ils vous répondent Caroline Cartier. Ils ont raison. Donc, on n'a pas inventé grand-chose. En fait, je dis ça pour être faussement modeste, c'est pas vrai, on a inventé beaucoup. La seule chose qu'on a inventé, c'est de le mettre sur Internet.
Voilà.
Et ça, finalement, ça change tout. Tu parlais hier de podcasting. Depuis 2002, tous les sons d'Arte Radio sont téléchargeables. En 2002, le téléchargement d'objets créatifs rémunérés, ça n'existe pratiquement pas. En 2002, quand on dit téléchargement, l'écho vous répond pirate. Donc, on avait cette idée et ensuite, on a été les premiers, la première radio professionnelle en France à faire du podcast en 2005. Mais pour nous, c'était une évidence. C'est-à-dire, évidemment, sur ce qu'on fait, sur les petits objets qu'on fait, il n'y a pas une demande fantastique. Les gens ne vont pas se ruer sur leur ordi en disant « Il faut absolument que j'écoute une création radiophonique ». Mais le fait de les avoir comme ça en deux clics, dans son baladeur, dans son iPhone, etc., pour se balader, là, pour le coup, c'était une révolution. Tout d'un coup, ça redonne une dignité à la radio, au son, comme court-métrage. Pour moi, Arte Radio, c'est un site qui raconte des histoires. Il y a des histoires vraies et des histoires fausses. Mais c'est une boîte à bonbons. Il y a les bleus, les rouges, ceux à la liqueur qu'on ne mange jamais. Et voilà, c'est un coffre à histoires.
Et vous savez pour le coup hein, combien de bonbons ont été pris parce que avec vous avez les hits donc vous pouvez savoir quel documentaire a été consulté, téléchargé.
Voilà.
Et vous avez des surprises notamment. Est-ce que ça vous aide déjà à faire la ligne éditoriale en vous disant tiens ça
marche, ça plaît, ça marche pas. Ouais, alors au début, moi, j'ai refusé de voir les statistiques parce que justement, je ne voulais pas être influencé par ça. Je me disais, on a une radio d'offres et pas de demandes. Ça a décollé quand même relativement vite. Il y a eu une croissance très, très forte pendant les premières années. Ça s'est un peu tassé ces temps-ci parce que notre site Internet a beaucoup vieilli. Il n'est plus du tout à la hauteur. Donc là, au mois de décembre, on va en avoir un flambant neuf magnifique. Donc j'espère que ça va repartir. On a quand même entre 300 000 et on est maintenant à 250-300 000 visites par mois. On a été jusqu'à 500 000 visites par mois. Donc pour de la création radio, c'est très bien. Ce qui est très surprenant, c'est que les sons les plus écoutés, les plus téléchargés, c'est bien entendu ceux qui parlent de sexe. Donc ils peuvent être courts ou longs, mais il y a des tubes. La susothérapie de Media Audix, c'est un tube. Voilà, ça, ce truc est passé partout. Il y a des radios associatives qui l'ont même dans leur playlist.
Ah mais il y a aussi une compile des Arocs, hein, je crois, qui l'avait inclus, donc ça aide. Hein.
Les compiles des Arocs nous ont beaucoup aidés aussi. Donc il y a du sexe et curieusement, il n'y a pas que du sexe. Par exemple, ces temps-ci, le plus téléchargé, c'est Ifni, la révolte, qui est aussi un documentaire de Media Audix, ça tombe bien, sur les révoltes à Sidi Ifni au Maroc. Alors je pense que là, le téléphone arabe, sans jeu de mots, a fait son effet, c'est-à-dire que moi, de toute façon, avec Mehdi, on est allé à Sidi Ifni. Après le docu, on avait amené des CD pour que ça circule. Mais alors là, il y a eu des téléchargements. Et tout d'un coup, c'est-à-dire du jour au lendemain, le 14, il y en a peu. Et le 15, je ne sais pas, je pense que par les réseaux sociaux au Maroc, le truc a énormément circulé. Aussi, un autre documentaire de Media Audix qui s'appelle « Ma cité va parler », qui est une merveille de 49 minutes, qui est tout simplement la vraie vie des jeunes Arabes de France dans les banlieues des années 70 aux années 90. Pareil, ça a énormément circulé, été téléchargé. Donc disons que 8 sur 10, c'est des histoires de cul. Et moi, ça me va très bien parce que je trouve que le sexe et la radio vont bien ensemble. Mais aussi des documentaires, comme on le voit, qui peuvent être longs, sérieux, sur des sujets importants, des sujets de société. Ils sont aussi largement téléchargés. Mmh. De toute façon, France Culture arrive au même résultat. Vous savez que France Culture, c'est le troisième podcast en France. C'est tout à fait logique. Quand on écoute la radio, comme on écoute quelque chose qui rentre par une oreille et qui sort par l'autre, bon, bah, on écoute, c'est un plaisir, moi aussi j'aime ça, et il n'y a pas de problème. Quand on télécharge ou qu'on podcast, c'est quand même un acte, c'est comme d'aller à la médiathèque, bah, on ne va pas prendre n'importe quoi, c'est pour prendre quelque chose, on se dit, il y a un peu de fond, il y a quelque chose à écouter et tout, voilà.
Alors justement, c'est le fait d'être en prise aussi sur l'actualité, vous en produisez une fois par semaine, ça aussi, ça permet de finalement de traiter l'actualité d'une autre façon, tout en restant quelque part dans le traitement de l'information.
Ben oui, alors ça c'est une nécessité. C'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on laisse toutes les archives en ligne, donc il y en a 1500, vous l'avez dit, et c'est vrai que les choses ne sont pas spécialement liées à une actualité. Je parlais des documentaires sur Sidi Ifni, voilà, on peut l'écouter n'importe quand, ça reste pertinent. Il n'empêche qu'un média a besoin d'avoir un rapport avec l'actualité, ne serait-ce que pour que les gens viennent chaque semaine plutôt qu'une fois tous les 6 mois. Et donc on a mis en place un système où les salariés qui sont présents ce jour-là essayent de bricoler une actu possiblement rigolote. Je crois qu'on va en écouter une.
Oui.
Ok, donc on écoute l'actu d'il y a 15 jours qui s'appelle Radio Copie.
Chers amis, bonjour.
Française, français, belge, belge,
public chéri, mon amour.
Comment peut-on manquer à ce point d'éthique en s'appropriant la création d'autrui ?
Dans le plagiat, il y a une volonté de copier sans le dire.
Ça paraît évident, mais voilà, comme un hortefeux pris la main dans l'écoute, nous vivons une époque d'impunité totale. Pour donner mon avis sur cette actualité, j'ai pris des notes.
Je pensais les retravailler plus tard.
Mais ma bile est amère et mon courroux, coucou.
Wow.
Face à ce soi-disant journaliste se disant écrivain, qui dans son dernier roman a recopié des passages d'un ouvrage américain. Bonjour Joseph Massescaron. Car c'est de lui qu'il s'agit. Voudrait-il se faire passer pour Pérec, un véritable écrivain, lui, dont l'influence ne cesse de grandir, et qui a donc avancé cette idée qu'on pouvait...
On devait, selon lui, dans certains textes, faire des allers-retours entre des œuvres d'auteurs différents et puis se les réapproprier.
Ce qui n'est pas pareil que pomper comme un potage paresseux son essai annuel, n'est-ce pas Alain Minc ? N'est-ce pas Jacques Attali, qui malgré leur plagiat, continue à squatter les médias complaisants ? Car pour ces gens-là...
C'est très important de marquer effectivement qu'on n'a pas été fauché de la confiture clandestinement.
La main dans le pot de confiture, ce fut déjà le cas avec Patrick Poivre d'Arvor. Ça commence à faire beaucoup.
Et comme par hasard, ça tombe sur ces roitelets médiatiques que la prétention aveugle et l'avidité rend sourd. Au fond, c'est un acte de violence. Et je n'hésite pas à le dire en mon nom, c'est une
atteinte à l'intimité.
On voit bien dans cette histoire qu'il y a un retour de l'ego très fort.
Un désir de faire beaucoup de choses à la fois, un désir d'être très présent, de publier un livre tous les ans, et ça pousse peut-être certains auteurs à aller vite. C'est quelque chose qui s'est généralisé, c'est-à-dire le couper-coller.
Ou plutôt, je dirais moi, le copier-coller, la reprise, le sampling.
La technologie, effectivement, et l'évolution historique font qu'il y a de moins en moins de
frontières entre les œuvres, les textes, les sons. Ici, à la plus belle des radios. On n'utilise pas d'archives, on fait tout à la main, et pourtant, moi je considère que nous ne sommes pas
propriétaires de nos textes.
C'est pourquoi je voudrais dire à ces quelques-uns qui reprochent
tout simplement ce que je suis, c'est-à-dire, disons-le franchement, quelqu'un qui porte un polo, je l'ai lu, qui est tatoué, qui est musclé.
Que quand on me cherche, on me trouve. Va voir
là-bas si j'y suis.
Commence à te battre, j'arrive, je vais t'expliquer vite fait que la différence
entre le plagiat et le non-plagiat, c'est tout simplement le talent.
Radio.com. Voilà, on est toujours avec Sylvain Gire d'Arteradio.com et justement quand on entend ce montage sur l'actualité, il y a une question qui se pose, c'est justement la question légale, puisqu'on se souvient qu'au début du streaming, nous on a commencé à streamer nos programmes, c'était en 98 avec un opérateur commercial que je ne citerai pas, avant de savoir le faire nous-mêmes avec nos petites machines et nos petits serveurs. Mais c'est vrai qu'au départ, l'ASACEM disait alors si vous diffusez un isoprogramme, ça va. Mais si vous podcastez en ligne, alors il faut payer en plus. Si vous laissez plus de 15 jours le truc en ligne, etc. Alors tout ça c'est très compliqué, mais finalement, comme d'ailleurs beaucoup de choses, y compris la répartition, la SACEM n'arrive pas à gérer parce qu'elle avoue elle-même que c'est trop compliqué. Mais au bout du compte, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. On se rend compte que si on va sur le tour de tous les sites de radio, qu'elles soient associatives ou autres, on se rend compte que des fois, il y a des trucs qui sont là depuis beaucoup plus de 15 jours, etc. Et puis, le fait est que vous avez fait le choix d'une licence de diffusion Creative Commons. Et du coup, alors, il y a plein de questions qui se posent. Du coup, quand on entend ce montage, on entend des génériques ou des jingles d'autres radios qui ont peut-être été déposés d'une façon ou d'une autre. Alors, comment on gère finalement tout ça ?
Il y a deux questions complètement différentes. Sur cette petite actu, ça ressort du bricolage sonore. Et donc là, il y a une autorisation qui est celle de la parodie, du pastiche, de la citation. Donc c'est des citations brèves qui sont vraiment utilisées comme citation, comme un zapping. C'est l'équivalent d'un zapping radio. Et on voit bien, parce que j'ai pas étudié, je suis pas juriste, mais j'ai vu un peu, je suis tombé récemment sur un article là-dessus, pour justifier la parodie ou le pastiche, il faut qu'il y ait une créativité. Que ça dise quelque chose qui ait vraiment un sens. Et là, je pense que je peux plaider tout à fait facilement qu'il y en a. On voit bien que c'est mis au service de quelque chose et que ce n'est pas du vol, etc. Donc ça, c'est un premier point. Donc, et puis, il y a des choses qui ne sont pas soumises au droit d'auteur. Les JT, par exemple, on peut en prendre des bouts. En tout cas, nous, on prend assez souvent des bouts des JT de TF1 aux autres. Mais c'est des bouts très, très courts. Donc ça marche. Plus fondamentalement sur la question du droit d'auteur sur Internet, alors là, effectivement, c'est un gros flou, c'est très complexe. Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à avoir un accord avec les sociétés de gestion de droit. Mon ambition est quand même d'en trouver un. D'abord parce que les auteurs qui ne le réclamaient pas il y a quelques années, maintenant le réclament. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais les auteurs avec moi qui étaient très partisans du Creative Commons. Maintenant, ils le sont moins et je les comprends parce qu'une bonne part de leur revenu provient du droit d'auteur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens à Arte Radio qui travaillent en parallèle sur France Culture. Et effectivement, Arte Radio paye mieux. On paye mieux que Radio France. Mais si on prend en compte les droits d'auteur qui tombent et en cas de rediffusion qui retombent, là, c'est Radio France qui paye mieux. Donc, effectivement, je me sens tenu de trouver un accord avec les sociétés de gestion de droits. Maintenant, c'est pas...
C'est un peu la même chose chez les gens de Dogmazic, ou etc., qui sont dans la musique en libre diffusion et qui demandent à la SACEM de modifier ses statuts, puisque si elle est capable de gérer la répartition... bien que des fois ils nous disent qu'ils n'en sont pas capables, mais peu importe. En tout cas, ils ont les moyens de le faire. Ça, il n'y a pas photo. Mais effectivement, ça pose la question de la transparence de ces sociétés civiles de gestion de droit qui sont quand même fait épingler au printemps par le 8e rapport de la Commission permanente de contrôle des sociétés civiles de gestion de droit, qui quand même, sur 320 pages synthétisées par Que Choisir en un très bon article, ont quand même pointé le fait qu'en l'espace entre 2000 et 2010, on est passé de 3 à 26 sociétés civiles de gestion de droit. Et pourtant, c'est la crise et que grosso modo 50% de l'argent disparaît purement et simplement. Enfin bon, il y a beaucoup de critiques qui sont faites. Donc effectivement, changer le logiciel, ça va pas se faire en un jour.
Non, il y aurait beaucoup à en dire. Vous avez entièrement raison. On va peut-être pas rentrer dans ce débat maintenant.
Non, non, non.
Mais c'est vrai que quand on est reçu, comme moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand on est reçu pour se faire engueuler sous prétexte qu'on est un salopard qui spolie les auteurs et qu'on est reçu dans un hôtel particulier du parc Monceau avec tout ce qui va avec et qu'on vous sert à manger dans de la vaisselle en argent avec un loufia en grande tenue, on a un petit peu envie de ricaner, quoi, quand on voit comme le budget d'Arte Radio, c'est 200 000 euros, mmh. et que ces gens ont l'intention de nous en prendre 8 à 10%, effectivement, ça fait un peu mal au sein. Donc, bon, maintenant, j'ai décidé qu'on allait essayer de trouver un accord, j'espère. Alors, eux, ce qui les effraie, c'est le Creative Commons, et je les comprends. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, en tout cas, en 2002, il n'y avait aucun accord possible. De toute façon, ces gens-là ne savaient même pas que ça existait, ils n'avaient jamais vu un ordinateur, ou presque. Donc, nous, on a choisi le Creative Commons parce qu'on s'est dit, justement, il faut se distinguer des pirates et des margoulins. On va donner une licence légale, juridiquement existante, à nos œuvres. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de revaloriser la notion d'œuvre, donc la notion d'auteur. C'est-à-dire que sur Arte Radio, c'est pas du tout comme YouTube. Tu vois, YouTube, par exemple, tu vois une vidéo, tu sais pas d'où elle sort. Mmh. On sait jamais qui en est l'auteur, qui l'a mise, etc. Arte Radio et d'autres web radios, comme Silence Radio, par exemple, systématiquement, à un son est associé une durée, un générique, un auteur, tout ça sur papier. Tout ça est parfaitement calibré. Mmh. Donc là, on s'est dit, il nous faut une licence qui permette la distribution des contenus, parce qu'on y tenait, donc le passage sur les radios associatives, mais qui tienne aussi les commerciaux à l'écart. On parlait de la susothérapie. C'est un très beau reportage qui dure 7 minutes, dans lequel une jeune femme fait des confessions sexuelles assez intimes, assez personnelles. Moi, j'ai pas envie qu'Energie ou Europe 1 prennent les 30 secondes super croustillantes et en fassent un jingle trash. J'ai pas envie que les gens s'approprient, en marche, je dis ça alors que j'ai fait bon, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie que ça soit repompé, parce que ça a pu l'être. J'ai été appelé par des journaux qui voulaient repomper le texte de la susothérapie et en faire des articles. On s'est fait pomper pas mal, y compris par des télés. C'est-à-dire, des fois, on va interviewer quelqu'un et puis on se rend compte que quasi le même reportage avec la même personne se retrouve quelques semaines plus tard à la télé. Donc, à un moment donné, j'estime qu'il faut un statut. Donc, on a choisi Creative Commons. Vous avez le droit de diffuser les sons d'Arte Radio dans un cadre non commercial. Ça veut dire pédagogique. Donc c'est énormément utilisé à l'étranger, pour l'enseignement du français à l'étranger, pour les gens qui veulent apprendre le français, dans des facs, dans des écoles. Et puis, il faut créditer aux auteurs et à Arte Radio. Voilà, et c'est ce que font les radios associatives en général, et c'est pour ça qu'on a aussi glissé un jingle dans tous nos sons. Pour le reste, les droits appartiennent à Arte, et c'est Arte qui les gère.
Mmh. Et c'est une licence Creative Commons by NCND, ou by NC?
C'est NCND, c'est oui, pas de modification.
Voilà c'est
pas
ça.
De coupe ni de modification, ah oui, justement pour éviter qu'on prenne. Parce que pour moi, un reportage, le portrait de quelqu'un, il peut dire des choses très fortes, très intimes, mais il dit toujours autre chose à côté. Une personne ne se limite pas à son statut de personnage. C'est-à-dire un handicapé, c'est pas qu'un handicapé. Une femme violée, c'est pas pour toute sa vie une femme violée. Quelqu'un victime qui a vu mourir ses parents au Rwanda, il va pas passer sa vie à répéter qu'il a vu mourir toute sa famille au Rwanda. Ce qui est important dans la construction d'un personnage, en radio comme en télé, comme partout, comme dans la presse, pour moi, c'est justement de montrer qu'en fait ces gens sont comme nous. Un Africain, c'est pas quelqu'un qui est voué à souffrir de sa naissance à sa mort. Il lui arrive de jouer au ping-pong et de passer des bons moments, même s'il a connu des moments difficiles. Donc c'est cette partie-là qui m'intéresse. Mais d'autres médias n'ayant pas ces scrupules vont reprendre juste le petit passage un peu croustillant. Et voilà. Donc pour éviter ça, pas de coupe et pas... By NDNC.
Voilà, pas d'utilisation commerciale ni de modification sans l'accord. Voilà. De l'auteur, encore une fois. Donc tous les auteurs sont rémunérés, c'est sous forme quoi, d'un contrat de cession de droit, c'est-à-dire qu'on les rémunère une fois et puis ensuite c'est Arte Radio qui gère.
Voilà, pour les auteurs de chez auteur, c'est-à-dire les auteurs de fiction, ceux qui écrivent des textes, c'est un contrat de cession de droit. Pour les autres, là aussi, il y a quelque chose, mais là qui ne dépend pas de nous, qui dépend de la manière française de gérer les choses. Un réalisateur, un technicien de radio n'est pas censé être auteur. Si vous voulez, on vit dans un monde dans lequel l'auteur, c'est le verbe. C'est celui qui écrit. Mais comme nous, on a des gens qui écrivent avec leur micro, avec leur table de montage, ils écrivent aussi. Mais eux ont un contrat purement de cachet. Donc soit en pige s'ils sont journalistes, soit en cachet s'ils sont intermittents. Là aussi, il va falloir trouver une manière de rémunérer ça correctement.
Alors c'est là qui est, pardon Vincent, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire ce qui est passionnant aussi dans ce projet, c'est aussi de réinventer un modèle économique, parce qu'on a quand même le sentiment que les modèles économiques de la propriété intellectuelle, même si c'est un gros mot, sont un peu dans l'impasse aujourd'hui.
Oui, alors on réinvente un modèle économique, il faut rester modeste, voilà, avec 200 000 euros par mois, les gens n'en vivent pas forcément. De toute façon, on ne vit pas du documentaire radiophonique. Enfin, il y a 20 personnes en France qui ne font que ça, et elles aussi entre France Culture et Arte Radio. Et encore, quand je dis qu'elles font que ça, c'est pas vrai, elles animent des stages, elles font des formations, elles font parfois autre chose. Quand on gagne un prix ou qu'on est multidiffusé, ça va, mais c'est pratiquement impossible de vivre de la radio de création à l'heure actuelle. Enfin, il y a vraiment très très peu de gens qui le font. Donc, faut rester humble, on n'y arrive pas non plus. Par contre, on arrive à mettre des gens le pied à l'étrier, effectivement. Il y a des gens qui ont démarré avec Arte Radio il y a 8 ans, il y a 5 ans, et qui maintenant sont professionnels, qui gagnent des prix, qui ont d'autres engagements, et de ça, on peut légitimement être assez fiers. Ils sont payés. Pour le reste, je pense, c'est d'un point de vue presque plus philosophique, on devrait rémunérer la création. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, on rémunère la création. Et pour le moment, on n'arrive pas à rémunérer la diffusion. Moi, je trouve qu'il y a une disproportion terrible entre la rémunération de la diffusion et la rémunération de la création. Je vais vous donner un exemple très simple. Un bon groupe de rock, de Rennes ou de Montpellier, ou un bon groupe de hip-hop, qui joue tous les soirs, qui fait vraiment, les gars, pratiquement ont des concerts tous les soirs dans leur région et tout, mais ils ne passent pas en radio et ils ne vendent pas de disques. Ils sont indés complètement, mettons, ils sont très peu diffusés, etc. Bon, en jouant très souvent, ils se font à peine un SMIC. Le gars qui a écrit une ritournelle pourrie pour accompagner la purée mousseline ou un truc à la radio, non seulement il va mourir milliardaire, mais ses enfants naîtront millionnaires et ses petits-enfants... Voilà. Pour moi, il y a une disproportion terrible, et je le vois au quotidien. Les droits, une petite musique, une musique d'illustration qui est utilisée à la télé, mais c'est des droits, mais c'est phénoménal. Si les gens s'en rendaient compte, ce serait l'émeute. Je trouve, alors c'est terrible de dire ça et tous les auteurs vont me tomber dessus, mais il y a quand même Or, on sait très bien que le spectre de ce qui est diffusé sur les antennes, malgré les radios associatives, se rétrécit. C'est toujours les mêmes titres qu'on entend. Et donc, en fait, pour moi, c'est un peu analogue au libéralisme. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je trouve que les cachets, je trouve que le travail d'atelier, par exemple, d'atelier avec des scolaires ou d'atelier en prison, devrait être beaucoup mieux rémunéré. Et il me semble, mais alors là, je sais que je n'arriverai pas à changer ça, il me semble que pour moi, les droits de diffusion me paraissent, je ne suis pas spécialiste, mais des échos que je peux avoir, y compris des gens d'Arte Radio qui ont une activité de musicien par ailleurs, quand les droits, ça me tombe, c'est assez délirant quand même. Je trouve, par rapport à ce que devrait être la rémunération d'un travail, comme un plombier, un enseignant, un artiste, c'est aussi quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas juste un génie qui a eu une idée de musique fabuleuse qui devrait lui assurer une rente jusqu'à la fin de ses jours.
En tout cas, ça ne peut qu'encourager ceux qui font de la création sonore à sortir leur guitare et à faire eux-mêmes la mise en musique. Finalement, au moins, il n'y aura pas de problème de licence ou de... Vincent ?
Effectivement. Non, mais je pensais qu'on pouvait passer à l'extrait suivant.
Tout à fait. Alors c'est un extrait que Sylvain va peut-être nous décrire.
Alors oui, c'est un inédit. Pour le moment, il n'est pas encore en ligne sur le site, mais c'est assez marrant. C'est une fille qui s'appelle Marie Astier qui nous a proposé ça parce qu'on fait travailler énormément de débutants. C'est son premier son, son premier reportage. Et elle nous avait ramené cette interview avec un son un peu pourri, mais le fond était intéressant. Et donc, on lui a dit, écoute, on va te former. Tu vas prendre un meilleur matériel, un meilleur enregistreur, des meilleurs micros, puis tu vas la refaire. Et en même temps, quand elle est revenue, on ne savait pas trop quoi en faire de cette interview, à part effectivement la mettre en scène. Et donc toute la mise en scène, la mise en son, elle est due à Samuel Hirsch, qui est réalisateur sonore à Arte Radio et qui est également musicien, qui fait également des musiques de films, etc. Et donc voilà ce qu'il en sort. Ça s'appelle pour le moment Chef de Rayon, Marie Astier et Samuel Hirsch.
Alors je pense que c'est un métier où la passion peut réellement s'exprimer et où elle est forcément nécessaire. Un chef de rayon, c'est un passionné, grand commerçant, qui aime ses produits, qui aime ses clients, qui aime son équipe. C'est la définition la plus simple que je pourrais donner du métier. Après, c'est une somme de toutes petites choses au quotidien.
On va croiser des personnalités différentes. On va être amené à travailler des produits différents. On va avoir des échanges avec ses clients. Voilà, toutes ces rencontres au cours d'une journée font que, naturellement, ça enrichit un homme. Et c'est effectivement ce qui me plaît, ce qui me plaît le plus. Donc Sébastien Louis, chef d'Orient Poissonnerie, j'ai 30 ans, je suis rentré chez Auchan il y a 4 ans.
99, promotion. 8,99€, promotion.
Par goût de l'alimentaire, par goût de la cuisine, par gourmandise, j'ai choisi la grande distribution et plutôt un rayon alimentaire.
Nous sommes ouverts, messieurs.
La joie de retrouver mon équipe. Ce sont des moments très privilégiés. Une équipe de poissonniers formidable. C'est la joie aussi de proposer des produits de très grande qualité qu'on achète tous les matins, mais proposer à nos clients de voir leur regard le matin devant l'étal, d'avoir des retours sur ce qu'ils ont pu acheter la veille ou la semaine précédente. Voilà, ce sont tous ces moments-là qui font que, effectivement, je sais pourquoi je viens travailler le matin. Au-delà d'être un simple commerçant, c'est-à-dire de vendre finalement des produits ou des services, c'est de vendre tous ces produits avec des choses complètement immatérielles qu'on retrouve que chez Auchan, c'est-à-dire le service, l'accueil, le sourire, une envie si particulière qui caractérise les collaborateurs d'Auchan. Et c'est comme ça qu'on anime son commerce aujourd'hui dans une entreprise comme la mienne. Certains métiers peuvent avoir une mauvaise réputation. Celui de la grande distribution en fait partie. Beaucoup d'heures, pas forcément très valorisant. En fait, c'est tout l'inverse. C'est réellement tout l'inverse. Je ne fonctionne pas en nombre d'heures passées au magasin. Comme j'estime que mon métier est plutôt réellement une passion, je finis ma journée quand je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire. Donc effectivement, ça représente de belles journées, de belles semaines. Maintenant, encore une fois, quand on aime, on ne compte pas. Et ça m'est déjà arrivé de passer des dizaines d'heures dans une journée à mon poste, sans réellement m'en rendre compte et me dire « Mon Dieu, la journée est déjà terminée ». Changer, construire, échanger, construire. Le fait d'exercer son métier avec passion, parfois nous fait pousser les ailes. C'est un sentiment de bien-être, tout simplement. C'est vrai que ça m'arrive d'être dans la voiture, d'avoir un petit sourire et de me dire ben, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui ou sur ma semaine ou sur voilà, je suis content d'être arrivé à ça. Aujourd'hui, anime réellement le groupe Auchan, ce sont ses valeurs humaines. L'homme est placé au centre de tout. Tous les choix se font en fonction des hommes et de nos collaborateurs. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres groupes. Et voilà. C'est la première valeur, celle qui m'a fait choisir ce groupe.
Arte Radio.
Qui me fera travailler nulle part ailleurs.
Alors, Sylvain Gir, responsable d'Arte Radio, là, vous confirmez, c'est bien quelqu'un qui travaille vraiment dans un supermarché, hein. C'est pas un comédien.
Non, il le dit, il donne son nom d'ailleurs, peut-être que je devrais l'enlever, mais non, c'est pas un comédien. Nous, on travaille beaucoup à partir du réel, ça c'est fondamental, et même quand on fait des choses comme ça qui pourraient se rapprocher de la création sonore ou de l'expérimental, j'aime bien qu'il y ait une base réelle. Et je trouve que le réel a souvent beaucoup de talent. Il y a une poésie du quotidien qui existe. Alors dans ce cas-là, c'est une poésie un peu grinçante, un peu politique. Mais voilà, quelqu'un, il est vraiment comme ça. Il a cette voix-là, on dirait. C'est l'employé du mois. Il est content, il trouve ça merveilleux. Et donc, du coup, le travail sonore de Samuel Hirsch à la guitare derrière a consisté à renforcer un peu ce côté un peu complètement surréel du type qui est tout content. Bon, voilà, mais ça existe.
Et ça vous arrive souvent, hein, vous parliez des nouveaux producteurs, journalistes qui venaient vers vous, ça vous arrive souvent d'avoir ce genre de surprise? Et vous avez tout de suite l'idée de ce que ça peut devenir?
Non, parce qu'on travaille très rarement à partir d'objets déjà existants. Dans ce cas-là, effectivement, elle avait déjà fait sa prise de son et on lui a demandé de la refaire parce qu'on est pénible. Mais en général, on travaille sur projet. Moi, j'aime pas diffuser des... parce qu'on est assez exigeant sur la qualité sonore et il faut... pour bien monter et bien mixer un son, il faut déjà qu'il ait été bien pris à la base. Donc c'est vrai que je me définis plutôt sur un projet. Donc les gens viennent avec 2-3 lignes par mail ou par un coup de fil ou voilà, des fois des dossiers de 20 pages, mais c'est pas obligatoire, et ils proposent un projet. Et pour moi, un projet, c'est pas seulement un sujet, c'est une articulation sonore. C'est-à-dire, je vais interviewer telle personne à tel moment parce que c'est ça qui lui arrive et je vais me mettre là et ça va durer. Bon, voilà, j'aime bien qu'il y ait un projet un peu articulé et à partir de là, on discute et du coup... Donc on passe pas mal de temps à définir les choses avant. Je pense que le piège du numérique, c'est qu'on a l'impression que c'est infini. Vous voyez, quand on filme ou quand on enregistre, bon, ben, on peut enregistrer des heures et des heures. Et ben, on a beau des fois avoir des dizaines d'heures de rush, on n'a pas ce qu'il faut. Mmh. Il nous manque un plan, il manque la question fondamentale, il manque la phrase qui tue. Et donc c'est vrai que je suis un peu exigeant et je demande aux gens d'écrire. Écrire, ça peut être dans leur tête, hein, mais de penser le sujet avant de tourner. Je crois que la grosse erreur que font les gens à l'heure actuelle dans le documentaire sonore, c'est qu'ils se disent « j'y vais, je vais tourner, je vais enregistrer et puis je verrai après ». Et ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir pensé son truc. Alors parfois, ça marche. Il y a des génies, ils sont capables de tout, mais... là, dans ce cas précis, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à penser après. Ben, penser après, c'est pas toujours une bonne idée. Vaut mieux penser avant.
Ben, c'est peut-être la différence entre le reportage d'ambiance. Hein. On va là parce qu'on a décidé d'y aller. On se dit, je vais bien voir ce qu'il en ressort. Et puis le documentaire qui est beaucoup plus réfléchi.
Voilà, qui est plus réfléchi, qui a une écriture, qui a un point de vue. Moi, je compare ça. Voilà, il y a la photo de presse ou la photo qu'on fait au portable et qui des fois peut être exceptionnelle parce qu'on est le seul présent. Il s'est passé un truc. Et puis il y a les photojournalistes ou même les photographes qui font des portfolios. Tu vois, quelqu'un qui va vous faire 8 pages, je sais pas, sur le binge drinking, je regardais ça aujourd'hui dans le journal, le binge drinking dans une ville du Pays de Galles. Bon bah voilà, il faut 4 ou 6 pages, il faut 12 photos pour parler de ça, une seule suffirait pas, donc il faut un point de vue et le gars explique, il y va tous les samedis, mais à certains endroits il travaille avec tel appareil plutôt que tel autre, il demande la permission aux gens, etc. Tout ça c'est une démarche. Bah nous on demande aux gens d'avoir cette même démarche avec le son, c'est à dire que la grosse erreur c'est de se dire le son c'est là et il suffit d'ouvrir son micro et on l'aura. En fait on n'a rien. Et nos réalisateurs sonores, Arnaud Forest et Samuel Hirsch, ils disent à chaque fois aux débutants, ils disent le son faut aller le chercher. Et un photographe, par exemple, les photos de manifs, c'est un bon exemple, les gens veulent toujours faire du son dans les manifs. Mais le son dans les manifs c'est dégueulasse. Si on veut faire une belle photo de manif, faut monter sur un escabeau, faut monter sur un balcon. Ou alors faut poser les gens un par un devant un drap blanc. Mais il faut trouver un dispositif. Bah, le son, c'est pareil. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher, il faut se déplacer dans l'espace. C'est très physique, mais ouvrir son micro, ça ne suffit pas. Voilà, donc il y a un vrai boulot à faire. Et l'avantage qu'on a maintenant, c'est vrai qu'on a des matériels un peu plus souples, un peu plus légers, bien que nous, on continue à travailler avec des nagras, donc quand même relativement encombrant. Mais par contre, il faut plusieurs sons pour en faire un seul. C'est-à-dire, il faut être une fois très près de la voix en mono, une autre fois, prendre l'ambiance, par exemple, en stéréo, et puis multiplier les petits sons seuls en mono. Une fois qu'on a fait toutes ces démarches-là, en montage, en multipiste, on obtient quelque chose qui est une image relativement, complètement artificielle, mais un peu plus fidèle, un peu plus vraie de la réalité.
Sachant qu'aussi sur... après, quand on est devant son ordinateur, le système d'écoute n'est pas forcément tout le temps performant. Ceux qui l'écoutent sur un portable, Arte Radio, n'ont peut-être pas toute la dimension que vous pouvez y mettre.
C'est vrai.
Ça, vous y réfléchissez pendant la fabrication ?
On essaye quand même. Moi, je sais que j'écoute justement, je teste tout chez moi sur un Mac avec... petite stéréo, mais pas grand-chose. Et c'est vrai que les enceintes, effectivement, sont en général, les enceintes d'ordi sont médiocres. Justement, on y réfléchit parce qu'on se concentre. Il y a une qualité de son, mais il y a surtout une qualité d'écriture et de profondeur qui passe. C'est-à-dire, même si on n'a pas le pur son, on se rend compte qu'il y a plusieurs plans, qu'il y a plusieurs niveaux, qu'il y a des choses, que la voix est nette, qu'elle est bien prise et tout. Il me semble que c'est quelque chose qui passe. Après, il y a énormément de gens qui écoutent au casque, puisque tous ces nouveaux modes d'écoute, introduits par le podcast, sont finalement des écoutes solitaires au casque. Donc il y a les gens qui écoutent sur leur téléphone Apple en deuil, avec l'appli Arte Radio sur le machin store là. Et puis donc tout cela, c'est quand même avec des casques. Il y a ceux qui écoutent sur leur iPod, c'est du casque. Il y a beaucoup de gens qui écoutent au bureau entre midi et deux, ou ceux qui font des arts graphiques, des choses comme ça, des boulots un peu de remplissage de camembert, ils sont aussi au casque. Et puis il y a une écoute solitaire. L'idéal, mais je pense que ça va venir, on se rend compte maintenant que finalement, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on télécharge, ça passe par l'ordi. Si tu vas dans une chambre d'adolescent maintenant, il n'y a plus de chaîne stéréo. Ce serait débile d'avoir une chaîne stéréo. Par contre, il y a un ordi. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que pour le moment, on a un ordi et des enceintes pourries. Il va quand même falloir qu'un jour, on se rende compte que tout ce qu'on regarde et qu'on fait passer, ça passe, et qu'on mette des bonnes enceintes sur notre ordi. Tout simplement, comme il y a quelques années, on économisait pour s'acheter une bonne chaîne. Bon, moi, c'est vrai que je milite, et sur le prochain site, on va avoir un peu des rubriques là-dessus. Je milite pour dire aux gens, c'est fini, quoi. L'ordi, il faut le brancher sur la chaîne, un point c'est tout, sinon ça ne sert à rien, quoi. Mais je pense que de plus en plus, ça va se faire obligatoirement, puisque de toute façon, on ne va plus acheter de télé, on ne va plus acheter de chaîne stéréo. Donc, j'espère qu'on aura des dispositifs d'écoute de plus en plus performants. Mmh. Voilà, quoi.
À ce titre, justement, je rebondis sur cette question. Autour de la RNT, ce qui nous concerne à nous, qui sommes sur l'air tien.
Radio numérique.
Terrestre.
Oui, la radio numérique terrestre. L'argument de vente, c'est de dire vous pourrez mettre de l'image, ce qui est une hérésie totale pour des gens qui font de la radio. Le seul intérêt que ça pourrait avoir, effectivement, pour nous, c'est ce qui concerne les fictions radiophoniques, c'est d'émettre en 5.1. De spatialiser les personnages ou le déplacement d'un personnage dans une fiction, etc. Ce serait vraiment le seul intérêt qualitatif, mais encore une fois, c'est pas demain la veille qu'on aura du 5.1 au casque. Donc ça nécessite quand même un home theater, installation particulière, etc. Mais est-ce que vous y avez déjà songé? Parce qu'on sait qu'en Scandinavie, il y a pas mal de radios qui émettent comme ça. Et moi, j'ai pu télécharger des fichiers en DTS ou etc. qui permettent de profiter
de spatialiser le son.
Voilà, de spatialiser le son. Et c'est quand même assez jouissif en termes de créativité et puis du résultat aussi, parce que c'est quand même assez bluffant, quoi.
Ben, je vais vous décevoir, moi je trouve pas. Enfin, non. Je trouve que le résultat est bluffant, effectivement, avec le home theater et tout. Je vais dire, c'est pire, Arte Radio, au début, on était en mono. Tous les premiers sons de 2002, ils sont en mono, parce que Christophe Rowe disait, il vaut mieux qu'on ait un bon son en mono qu'une stéréo cheap. Après, comme les bandes passantes sont devenues de plus en plus importantes, parce qu'en 2002, il n'y avait pas la même bande passante que maintenant. Maintenant, on est à 256 kilobits seconde stéréo, donc ça va. Mais c'est une qualité vraiment correcte. Mais puis plus la qualité augmentera, plus nous on augmentera, on passera à 300, etc. Je suis personnellement, pour ce qu'on fait nous, pour la radio, complètement indifférent à la spatialisation et aux 5.1. Je trouve que c'est un truc, c'est parfait pour la création sonore dans le cadre d'un festival comme Sonorité là à Montpellier ou dans un musée. Bon, ok, mais c'est pas que ce soit élitiste, mais c'est à chaque fois réservé au happy few. Il y a quelques personnes, on a le super dispositif, on est au milieu, on est immergé, très bien. Moi, je considère que personne n'a accès à ça. Tu me dis, on ne peut pas écouter de la radio comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans la radio, c'est la narration, c'est l'histoire. Donc, une voix mono, ça me va très bien. Mmh. Une voix nue, ça me va bien. Plein de sons, plein de couches du multipiste, ça me va très bien. Mais pour moi, la stéréo suffit. Après tout, on a deux oreilles. Je constate quand même que depuis le temps qu'on nous parle de la quadriphonie du 5.1, ça n'a jamais marché. La quadriphonie, ça a été un fiasco. Pour moi, c'est quand même toujours un peu, c'est un truc de vendeur de hi-fi ou d'amateur de Pink Floyd. Je suis exprès un peu provocateur là-dessus. Je ne trouve pas ça très intéressant. Et en plus, je trouve le discours est toujours le même. Chaque festival de radio auquel je vais, à chaque fois, il y a un gars qui est là. Je vais vous faire une démonstration de ma fiction en 5.1. Vous allez voir que c'est génial. Bah, je ne trouve pas. Je trouve qu'une fiction, c'est une bonne écriture, un bon texte, des bons comédiens et ça me va. Je suis d'accord avec toi, il y a des choses qui sont bluffantes. Je me rappelle d'un documentaire d'Hervé Birolini, il avait pu enregistrer le décollage de la fusée Ariane à Kourou en Guyane. Ok, avec 12 enceintes autour de la pièce, j'avoue que ça le faisait, t'avais l'impression d'être sous la tuyère et tout. À part ça, entre le discours qu'on fait dessus et la réalité de ce que j'entends, encore l'autre fois, France Inter faisait une démonstration d'interception en 5.1, c'était sans intérêt. Je le dis parce que je l'aurais dit à eux... la voix du journaliste, par exemple, c'est exactement la même. Mmh. Le journaliste parlait de la même façon qu'il parle dans ma salle de bain en mono, c'est-à-dire hey, « nous sommes là, mais là », c'était insupportable. Donc, si c'est pour faire le même type de pauvre reportage niais, juste avec un truc un peu... C'était pas du tout bien exploité. Et tout. Je trouve qu'une bonne stéréo, normalement, ça doit te donner de la profondeur du champ et tout.
Tout à fait.
C'est un avis assez personnel, mais... La radio, c'est pas de la création sonore. La radio, c'est quelque chose de très démocratique qui s'adresse à tout le monde. C'est une voix qui te parle directement. C'est un son qui te parle directement, qui te saute à la gueule. La web radio, c'est pareil. Tu cliques, boum, il y a quelque chose qui arrive. Si il faut un dispositif complètement délirant, pour moi, c'est plus drôle, quoi. Mmh. Voilà.
Eh bien justement, on va peut-être écouter une illustration sonore de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que là, Arte Radio c'est de la stéréo, donc on va entendre des sons qui viennent à droite, à gauche, il va y avoir aussi des sons qui seront bien au centre. Il y a une autre caractéristique, c'est que là on a l'impression qu'on va, qu'il y a un reportage et que quelqu'un va dans une galerie d'art et qu'il pose des questions. Alors effectivement, il en a sûrement posé des questions. En tout cas, on n'entend pas les questions, on a simplement les réponses. Et puis il y a un autre élément, c'est le montage, ce fameux montage, ces superpositions. Voilà, exemple.
C'est des chiffres et des lettres.
Une exposition, enfin, il y a des hauts et des bas. On va dire c'est une exposition qui nous coûte 2 millions. 200 000 euros, voire des fois 400 000. Nous atteignons environ 3 millions. Donc A, B, 23, B, C, etc. Enfin, on vérifie tout. Ah ben ça nous coûte 23 000 euros de plus.
En fait, j'ai pas tenu les comptes, c'est pour ça que je dis ça, hein. Je sais pas exactement.
3 000 euros en plus.
Entre 5 et 10.
Entre...
C'est pas mal, non?
43 et 154.
Et je compte les enfants. Hein.
On s'adapte, on essaye de digérer. Sauf qu'il y a des moments où ça se digère moins bien.
36,4.
Nous atteignons environ 3 millions.
35,6 cm
de roue.
Elle disait à tout le monde qu'il fallait pas s'appuyer parce que tout le monde s'appuyait, parce que tout le monde croyait que c'était une table et en fait ça faisait partie de l'œuvre.
Abel, il faut pas s'appuyer, merci.
Elle m'a dit, t'as pas le droit de marcher dessus. Parce qu'elle m'a dit que c'était une œuvre, alors que c'était du scotch par terre.
Et c'est somme toute assez particulier. Il y a une espèce de préparation un peu, moi je définirais comme chamanique.
C'est un peu dynamique, c'est un peu pop, c'est coloré. C'est
3 millions.
Ankh, crucifix, joli bitonio.
On arrive à 8000 euros.
Bague un petit peu ratée.
Une idée magique, alchimique, mais on ne connaît pas.
Là, je dirais qu'il doit s'agir en fait d'un pins des années folles. Ça fait sens. Ça fait sens. Ça fait sens.
Presque 10 000 euros.
Subjection, que, comment tu traduirais ça, toi? Moi, je vois quelque chose plus en rapport avec les éthers, tu vois, et puis, je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser à l'idée de subjectivité. Il me faudrait un dictionnaire.
À la fin, presque, on touchait 20 000 euros.
C'est vraiment une jonction qui est à la fois représentative, formellement, de recherche purement synesthésique. Je sais pas si le terme existe.
Tu veux sortir du contexte ou pas?
Et de choses beaucoup plus subjectives par rapport justement au rapport qu'on peut avoir en l'image. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en résonance. Présentation, description, compréhension, sinon compréhension, tentative d'analyse, analyse.
La valeur globale d'exposition avait augmenté de 1 million.
Et ensuite, effectivement, je dirais pratique, artiste, forcément. Pratique artistique et peut-être de façon un peu plus générale, réseau aussi, voire
Arte Radio.
Aire géographique, même si bon, c'est quelque chose qui a complètement implosé, mais.
Point.
Voilà, contexte, plus généralement.
Comme.
La voix qui baisse vers la fin, c'est Guillaume Desanges. Hein. Donc voilà,
c'est Guillaume Desanges, c'est l'auteur, il est critique d'art, il est commissaire d'exposition, c'est quelqu'un qui fait des très grosses expositions internationales, ce qui n'empêche pas, on le voit, d'ironiser gentiment. C'est une attitude sur ce monde étonnant de l'art contemporain où on entend des phrases complètement surréalistes et des chiffres aussi complètement délirants. Et il voulait comme ça mettre en parallèle ces phrases et ces chiffres bizarres qu'on entend dans le monde de l'art.
C'est une espèce d'extraction d'un microcosme professionnel, quoi, en quelque sorte.
Mais fait par le principal intéressé, ce qui était assez drôle, parce que tout d'un coup, il sortait de son rôle de commissaire pour faire des prises de son. Enfin, quand même, il a pris son assistante pour faire les prises de son, donc c'est Hélène Mezel qui les a faites. Mais j'aime bien, on poursuit cette collaboration avec lui. Et d'ailleurs, il y a son dernier documentaire pour Arte Radio, leur dernier docu qui s'appelle Le Voyage Zénital, est exposé actuellement au Centre Pompidou, mais ce qui est quand même la pure classe.
Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça, des gens qui, quelque part, de par leur travail de producteur, sont des témoins de leur propre milieu?
Ah oui, énormément. Bah, d'ailleurs, il y a plus de 250 auteurs qui sont passés par Arte Radio, et il y en a énormément qui ont fait qu'un seul son. Alors, il y a plein de raisons. D'abord, je suis assez chiant, donc des fois, on s'engueule, donc ils ne veulent plus me voir. Et si je te rends compte, c'est quand même beaucoup de boulot pour pas énormément d'argent. Enfin, c'est quand même quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers, mais enfin, plutôt quelques centaines pour les débutants. Et ça prend quand même un peu de temps. Mais l'autre raison, c'est qu'ils avaient un truc à faire. Et souvent, ce truc qu'ils avaient à dire ou à faire, c'est sur leur milieu. Et il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils disent, voilà, il se passe telle chose. Je veux enregistrer ma grand-mère avant qu'elle meure, ou j'ai l'occasion d'assister à tel échange. Et souvent, les gens viennent avec une démarche et ils font leur son, leur reportage. Ils le font jusqu'au bout et ils sont contents et on ne les revoit plus. Et j'aime assez parce que comme ça, on peut avoir des choses très différentes. Il y a une prof qui a travaillé avec nous longtemps, puis qui maintenant a quitté l'enseignement et qui est professionnelle. Mais si on n'avait pas eu cette prof qui était venue nous voir, ben on ne pourrait pas avoir des sons comme on a eu dans des classes de ZEP. Tout le travail qu'a fait
Delphine Saltel. Oui, une ambiance de salle des profs, je crois.
Voilà. Absolument, mais aussi en cours, des élèves qui récitent Rimbaud et qui se plantent, enfin des choses très fortes qu'elle a fait, et un accès direct comme ça à ce dont on parle tout le temps, la banlieue, la crise de l'école et tout. Bah là, pour une fois, au lieu d'en parler, comme il n'y a pas de maître à penser, pas de théorie sur Arte Radio, on y est cash dedans, aussi avec des élèves. On a fait des ateliers avec des scolaires qui permettent d'entendre des choses qui seraient très difficiles à entendre autrement. Et moi, j'aime bien ça. Je pense qu'on parle bien de là où on est et de ce qu'on fait, sans forcément vouloir...
Et ça, justement, le côté éducation, finalement. Alors, effectivement, vous êtes accessible sur Internet. Donc, même si on cherche sexe, radio, reportage, j'imagine qu'on va sur Arte Radio, on tombe sur la sucothérapie. Bon, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous allez, justement, vers la jeune génération pour leur dire, voilà, la radio, c'est pas que Skyrock. Voilà, tout ce qu'ils ont l'habitude de dire.
Alors, c'est la jeune génération qui est venue à nous. Alors, quelle jeune génération? La génération qui écoute Skyrock, je vais pas la toucher, tu vois, de toute façon. Ou très, très marginalement.
Donc ça vaut pas le coup, si c'est marginal.
C'est pas que ça vaut pas le coup, c'est que, tu vois, c'est une illusion que de croire qu'on va plaire à 60 millions de gens. Moi, si je fais ça, c'est forcément des passions minoritaires. Je suis déjà assez content d'en avoir touché des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Ce que je sais, c'est que les jeunes gens qui viennent me voir dans les festivals et tout me disent « J'ai découvert la radio de création grâce à Arte Radio ». C'est ça qui est intéressant. Je pense que, historiquement, quand on fera le bilan, on se dira qu'Arte Radio a formé les auditeurs de France Culture. Tu vois, quand t'as 20 ans, tu vas pas écouter France Culture. Ça arrive, il y en a, mais il y en a très peu. Et moi, il y a des gens qui m'ont dit « J'ai découvert la création radiophonique grâce à Arte Radio ». Parce qu'ils sont sur le web, parce qu'on a des formats courts, accessibles, des thématiques, comme tu dis, qui peuvent être assez sexy, assez marrantes. Et finalement,
oui, j'ai fait un amalgame, d'ailleurs,
c'est une ouverture vers autre chose. Mais vouloir toucher le grand public, tu vas jusqu'à toucher ceux qui écoutent Skyrock, c'est pas... Par contre, il y a un documentaire sur le beatbox. Les beatboxers, il y en a même plusieurs, qui fait un carton. Il y a un documentaire où il y a un reportage très bref où il y a le beatboxer du... Comment il s'appelle ? Sayan Supakru, qui est vachement chouette. Et il y a un documentaire beaucoup plus long, de plus de 20 minutes, où tu as des beatboxers de toutes les origines, des avant-gardistes ou des purement hip-hop, qui se confrontent. Le truc est vachement bien monté. Ben, je peux te dire que celui-là, il circule, il se retrouve sur des blogs et tout. Je ne me fais pas d'illusions. 13, 14, 15 ans, 16 ans, tu ne vas pas passer ton temps à écouter de la radio de création ou de la création sonore. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'effectivement, grâce à l'écoute et à la réécoute, on se forme une idée de ce que c'est que le montage. On est obligé finalement de mettre en doute ce qu'on écoute. Parce qu'on se dit, je vois bien que c'est manipulé, je vois bien que c'est truqué, ces mecs sont forts. Et ça, c'est quelque chose qui immédiatement fonctionne, il me semble, avec cette génération. Ils se rendent compte, ils disent, tiens, là, il y a un boulot, et ça donne envie d'écouter. Tiens, finalement, le son, c'est intéressant, on peut raconter des histoires, j'ai pas besoin d'images. Si ce pari-là est gagné de temps en temps, pour moi, c'est déjà merveilleux, quoi.
L'avenir de la radio aujourd'hui, est-ce que ça pourrait être, parce qu'on nous promet l'abandon de la bande FM au profit de la RNT, etc. Mais bon, il y en a qui disent que c'est pas demain la veille, enfin on verra bien.
C'est sûr.
Plutôt que de rentrer dans des technologies hyper dispendieuses et moins performantes finalement que la bande FM. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone ou ouais. Presque. Il y a du Wi-Fi à peu près partout. Peut-être la nouvelle habitude, ce sera, voilà, c'est le smartphone qui va remplacer l'autoradio, vu qu'il fait déjà GPS. Effectivement, les habitudes d'écoute vont se déplacer sur la sphère Internet.
Je ne sais pas si ça se remplace, c'est toujours la grosse question. Au début, on nous disait qu'on n'était pas de la radio, maintenant on nous dit qu'on va tuer la radio. Je ne sais pas si les choses se remplacent, c'est souvent ce que les spécialistes qui étudient les techniques médiatiques te disent. C'est-à-dire la photographie n'a pas supprimé la peinture, le cinéma n'a pas supprimé
la photo. Oui, la photo numérique n'a pas supprimé l'argentique non plus.
Et la télévision n'a pas tué la radio. Donc les choses ne se remplacent pas. On aura toujours besoin, à mon avis, il y a quelque chose dans l'air tien, dans le direct, qui est fondamental, qui ne peut pas marcher avec l'Internet. Je suis désolé. Je vous déconseille d'écouter des radios Internet en voiture, par exemple. C'est très dangereux. Il faut rester concentré sur la route. Donc, je ne pense pas que ça se remplace. Maintenant, pour ce qui nous intéresse, nous, la radio de création, les œuvres radiophoniques, les œuvres sonores, là, pour le coup, je trouve que l'Internet est presque plus adapté que la radio. De même que pour regarder un film, un DVD ou la VOD, c'est plus adapté que la télé, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être à 22h devant son écran pile pour voir un truc en VF. On veut l'avoir en VO dans de bonnes conditions. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai. Est-ce que tu connais une personne au monde qui dit « Oh mon Dieu, il faut que je rentre chez moi, il y a ma fiction radio qui va commencer ». Ça n'existe pratiquement pas. Il y en a peut-être 50 en France. Donc pour ce qui est de la création, je pense que l'Internet est... Ce qui va avec, la mobilité, comme tu dis, les portables, le podcast, l'ambulatoire, est effectivement beaucoup plus adapté. Ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, le sonore retrouve une pertinence. Ce qui est intéressant, c'est que dans la lignée d'Arte Radio, si ce n'était pas nous qui l'avions fait, d'autres l'auraient fait, je ne me fais aucune illusion. Il se trouve que c'était nous qu'on était un peu pionniers sur ce coup-là. Dans la lignée, il y a des festivals, il y a un renouveau de ça, il y a une envie de faire de la création, il y a une formation au documentaire sonore à Angoulême qui existe. Et moi, j'ai des dizaines de demandes par semaine de gens qui veulent bosser, qui me proposent des projets. Et ça, je trouve que c'est super. Voilà, maintenant, les financements, bon, comme tout ce qui est beau et intéressant, dans ce monde, il va falloir les trouver, mais je pense que, en tout cas, c'est beaucoup plus pertinent maintenant qu'il y a 10 ans. Ce que ça sera dans 10 ans, je suis incapable de te le dire. Je pense qu'il y a un avenir pour nous, pour notre boulot, c'est le webdoc. Il se trouve que je travaille au sein d'Arte, au service web, donc je vois passer aussi les projets webdoc et j'en ai coproduit un aussi. Ce qui est intéressant, c'est de promouvoir le son. et la capacité du son. Et donc, tu peux faire de très beaux web documentaires où le son a une vraie place qui n'est pas seulement celle de support ou d'accompagnement de l'image.
Là, pour le coup, hein, pour Pleasant Valley que voilà. Arte a produit, le son était assez accessoire. Et ouais. C'est vrai qu'il aurait pu être encore
ouais, mais si
un
tu
peu
vois...
plus exploité.
Un webdoc qui s'appelle « À l'abri de rien », qui est produit pour la Fondation Abbé Pierre et auquel on a participé, Mehdi Aoudic, encore lui. Il y a un photographe, Samuel Bollendorf, et un homme du son, Mehdi Aoudic. Et je vous conseille de voir « À l'abri de rien », rien que pour ça. On se rend compte que chacun est à sa place, mais une place qui n'est pas assignée. Personne ne bouffe l'autre. L'image ne bouffe pas le son, et c'est très rare. Et il y a une vraie nécessité d'avoir du son de qualité sur Internet. Et là, c'est une voie dans laquelle nous, les gens de radio, les gens du son, on peut se développer. C'est-à-dire pas être strictement cantonné, mais qu'on ait une vraie place, pas seulement au service des images, mais à côté.
Bien. Une bonne conclusion peut-être.
C'est une très bonne conclusion. Bon, on va remercier Sylvain Gire d'avoir été avec nous dans nos studios. On remercie Bruno Bertrand qui a réalisé cette émission. Vincent, on se remercie. On précise que l'autocongratulation, c'est toujours fort agréable. On rappelle que le Festival Sonorité se poursuit ici au CCN jusqu'en fin d'après-midi. Et ce soir, ce sera au couvent des Dominicains qu'il y aura le concert de clôture de cette édition 2011 du Festival Sonorité que vous retrouvez sur sonorité.org. On se quitte justement avec, pour le coup, de la poésie sonore.
La vraie poésie du quotidien, ça c'est une séquence tout à fait authentique, documentaire, enregistrée par Sophie Dacruz auprès de sa grand-mère. Et l'art du montage d'Arnaud Forest, l'autre réalisateur sonore d'Arte Radio, fait que tout d'un coup, ça devient de la poésie, mais pareil, de la poésie simple, accessible, en format court, 2 minutes 35, ça s'appelle évidemment l'audition.
Le cachot, le donjon, le bandeau, le complot. Le blason, le sergent, le gazon, le brigand, souci, taudis, débris, le défi, le refrain, le frelon, le parfum, le garçon, le mari, le pigeon, le curé, le coquin, le coton, le veston, bâton, le mouton, le caillot, le grillon, le noyau, le rayon, le terrain, le soulier, le bijou, le billet.
Très bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu jouer sur votre...
Le congé. Le traité, le droitier, le bûcher, c'est ça? Le forfait, le bosquet, le relais, sifflet.
À la télévision, ça donne quoi?
Comme si ça venait de loin.
À la radio, c'est pareil?
C'est comme si vous ne parliez pas.
C'est un peu le problème, des fois on dit oui, mais il fallait dire non.
Non.
On va essayer de voir maintenant quelles sont les situations qui vous posent problème.
Le guichet, le chaînon, le sachet, le chevron, le forban, le radis, le cadran, le devis, le tampon, le boulot, le bonnet, le chaos, le plateau. Le carnet, le niveau, le piquet, le rouleau, le balai, le tripot, le secret.
Arte Radio.
Je ne sais pas si c'est la peur, mais je ne vous entends pas.